les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale. En partenariat avec le groupe VIV.
Thierry Borsa.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire, le groupe VIV. On va s'intéresser aujourd'hui à tous ceux qui, que ce soit à domicile ou dans les établissements spécialisés, accompagnent les personnes dépendantes ou handicapées, tous ceux que l'on appelle les aidants. Ils sont plusieurs millions en France à consacrer souvent bénévolement, beaucoup de temps chaque jour, à ceux qui ont besoin d'être accompagnés et ils sont le complément indispensable des équipes de soignants. La crise sanitaire que nous traversons a évidemment un impact sur leur quotidien, alors comment cette crise et les périodes de confinement les ont touchés? Quels soutiens ont été mis en place pour faciliter leur mission? Comment l'innovation est parfois venue les aider? Et quelle est la réalité, surtout de leur quotidien? Eh bien, nous allons aborder ces sujets avec le directeur médical de la Mutualité française bourguignonne, une structure qui fait partie du groupe VIV, notre partenaire, et avec une femme qui accompagne à son domicile son mari atteint de la maladie d'Alzheimer, un témoignage qui illustre jusqu'à l'émotion, vous l'entendrez, ce que cela signifie d'être un aidant. EHPAD, structure d'accueil de jour, service à domicile, la Mutualité française bourguignonne accompagne les familles tout au long de la vie et travaille pour apporter cela main dans la main avec de nombreux aidants. Nous avons rencontré son directeur médical pour évoquer l'impact de la crise du coronavirus et des périodes de confinement sur leur quotidien. Docteur Imatsfer, avec cette deuxième vague de l'épidémie et surtout le reconfinement qui perturbe pas mal la vie quotidienne, dans quelle situation se trouvent les aidants ?
Alors effectivement, la deuxième vague de l'épidémie du Covid-19 a des impacts directs sur les aidants, puisque le confinement de la population a accru l'isolement des aidants. Les aidants ont dû faire face à la fermeture de certains établissements et à la réduction des interventions des services à domicile. Il ne faut pas négliger aussi l'impact de l'isolement des aidants en termes du reste des membres de la famille, puisque effectivement, avec le confinement, les autres membres qui pouvaient donner un coup de main, qui pouvaient venir soutenir un petit peu le couple aidant-aidé, a été obligé de réduire ses déplacements et forcément, ça a un impact sur l'aidant. Et puis, effectivement, il y a des aidants qui étaient obligés, enfin ceux qui travaillent, qui sont actifs encore, par le fait qu'ils faisaient du télétravail, ils étaient encore plus présents à domicile et en contact encore plus régulier avec la personne aidée, ce qui a augmenté le stress de l'aidant, puisqu'il doit gérer et le travail, mais également s'occuper du quotidien de la personne aidée. Alors, tout ça fait que l'aidant se trouve encore en plus de difficultés face à ses missions d'aidant, que ça soit à domicile, mais également dans les établissements médico-sociaux, où la particularité, là, c'est qu'il se déplace moins dans les établissements médico-sociaux, même si on continue à accepter des visites, mais les visites sont beaucoup plus réduites qu'avant. Donc là, il se trouve un peu isolé et frustré de ne pas avoir des informations régulières, mais aussi un contact surtout régulier avec la personne aidée.
Et vous avez apporté quelle réponse à ces difficultés qui sont évidemment liées à la crise sanitaire ?
On a beaucoup développé effectivement pour les établissements médico-sociaux, les nouvelles technologies en distanciel pour essayer de garder le contact entre les résidents et leurs familles, et notamment toutes les techniques de communication à distance, les logiciels, les Skype, les WhatsApp, etc., qui ont permis et qui permettent toujours de se connecter, de se parler à distance. Mais également, il y a des dispositifs innovants, notamment, on va tester prochainement un robot capable dans les établissements médico-sociaux qui s'appelle Ubo, qui est capable de se connecter suite à une réservation par les familles d'une plage horaire. Et ils se connectent dans la chambre de résident, avec ces plages horaires. Et met les résidents avec leurs familles en contact.
Mais les aidants et puis les personnes dépendantes qui sont accompagnées, est-ce qu'ils utilisent facilement ces dispositifs très innovants ?
Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que suite à la première vague, on s'est aperçu, on avait un peu de doute en disant est-ce que nos résidents vont s'habituer à ces nouvelles technologies, mais vraiment on s'est rendu compte que effectivement, malgré le grand âge de nos résidents, bien évidemment, quand on les aide un petit peu, ils s'adaptent assez bien à ces nouvelles technologies et ils communiquent bien à distance avec leur famille, y compris pour leurs enfants aussi, puisqu'ils sont souvent aussi âgés. Et puis, les seniors, en général, ils se sont mis aux nouvelles technologies suite à la première vague de l'épidémie. Et là, ça se confirme avec la deuxième vague.
Merci, docteur Imatsfer. Et on voit bien à travers ce que vous nous dites que ce sont de vraies difficultés que les aidants rencontrent du fait de la situation sanitaire du pays et qu'ils ont bien besoin d'être eux aussi soutenus. Et pour aller encore plus loin sur la réalité de la vie quotidienne de ces personnes, nous avons eu un entretien avec une femme qui, chez elle, s'occupe de son mari devenu dépendant. Un témoignage, vous allez l'entendre, qui ne cache rien des vrais soucis gérés chaque jour par tous ceux qui partagent ces situations. Une plongée édifiante et très émouvante dans la vraie vie des aidants. Nicole Lordet, vous accompagnez votre mari qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ce rôle d'aidant, il se traduit comment concrètement au quotidien ?
Disons que je suis son complément, parce que la maladie d'Alzheimer, pour moi, c'était... j'avais entendu certaines choses, à vivre au quotidien, ça vous apprend à des fois à des choses que vous pensiez pas, et que vous ça vous paraît tout simple et pour lui que c'est beaucoup compliqué. Il est encore un peu autonome, je vous dis, c'est-à-dire que là à midi là je fais à manger parce qu'avant c'était lui qui faisait. Donc lui, il sait qu'on va manger, il met la table, ça c'est un fait, il la met, pas de souci. Après, il faut que je lui dise, comme avant, on prépare le café, tout ça. Si je lui dis pas, il va pas le faire, voyez.
Au-delà de cette organisation des repas, comment vous l'aidez ?
C'est-à-dire que je pense aussi disons que je sors déjà ses affaires pour qu'il s'habille. Parce qu'avant, je ne faisais pas ça. Disons que le soir, quand il va faire... On prend notre douche le soir. Donc, quand il va faire sa toilette, tout ça, je me mets dans la salle de bain, je lave mes petits linges, puis je regarde comment il fait pour se laver, tout ça. Parce que c'est des choses que nous, on commence, je vais vous dire franchement, par se laver, se mouiller. Et lui, il le fait pas forcément. Donc, il mouille bien son gant, il met bien son savon. Mais après, moi, je commence en général par le visage, éventuellement les oreilles. Après, vous descendez les bras, tout ça. Et lui, il commence par le bas.
S'occuper comme cela de votre mari, ça représente combien de temps dans vos journées ?
Ça me prend... parce que je peux encore le laisser tout seul, Mais ça me prend quand même du temps parce que faut tout penser. Il me faut deux cerveaux en définitive. Et au quotidien, par exemple, si je décide de me mettre sur mon ordinateur, je vais le mettre devant la télé. Mais par contre, il se met devant la télé, mais bien souvent, il dort, il s'assoupit, voyez. Il faut quand même surveiller parce que pour l'instant, il fait pas de bêtises, mais vous en avez qui font des bêtises.
Vous êtes parfois relayé dans ces tâches ?
Pour l'instant, j'ai fait un dossier pour l'APA, avec une personne, une assistante sociale, donc qui m'a beaucoup aidée pour faire mon dossier, et j'ai droit à une personne qui vient m'aider une fois par semaine, une heure et demie. Alors, je la sollicite beaucoup pour faire mon repassage, parce que j'ai beaucoup de linge, et à me fermer vite, vous voyez, les gros travaux.
Le confinement, qu'est-ce que ça a changé pour vous et pour votre mari ?
Je me suis rendu compte qu'il se renfermait beaucoup sur lui-même. Hein. Vous voyez, quand il y a eu les applaudissements, il me posait des questions, il me disait, mais pourquoi que les gens, ils applaudissent ? Alors, je lui expliquais. Et bon... Pour lui, c'était glibreux parce que le lendemain, il me reposait la même question parce que, comme il ne se rappelle plus, il répète sans arrêt les mêmes choses, vous voyez. Et j'ai trouvé qu'il avait diminué en capacité, vous voyez.
Cette aide que vous apportez à votre époux, ça se fait naturellement ou vous avez dû être accompagné, formé ?
Avec les formations que j'ai eues, j'ai fait quand même 6 formations. On apprend beaucoup de choses parce que moi, je me suis rendu compte, après, en réfléchissant, je me suis dit, parce que tout le monde disait, il est devant un placard, il ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière le placard. Il va chercher, par exemple, le soir, je prépare tous les bols, tout ça, et bien souvent, il ouvre plusieurs placards pour voir où se trouvent les choses parce qu'il ne sait plus.
Ces formations, elles vous ont appris quoi ?
La maladie d'Alzheimer, pour moi, c'était le cerveau. Bon, c'est un fait, le cerveau, on sait qu'il est atteint quand même, mais il y a tout l'environnement, je veux dire. Parce que vous ne pensez pas forcément, pour lui, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des gens, c'est pas qu'ils n'ont plus de sentiments, mais il va me voir pleurer. Il ne va pas se poser de questions. On a l'impression que je suis là, mais il a besoin de moi, il le sait. Mais les sentiments, vous voyez.
C'est dur, cette absence de reconnaissance ?
Oui, beaucoup. Parce que, vous voyez, c'est pas de leur faute. Après, il faut se mettre à la place du malade parce que je pense que pour lui, ça doit être difficile aussi parce qu'ils ont des moments de lucidité. Parce que vous voyez, c'est de l'apathie, quoi. Ils nous apprennent tout ça. Je sais pas, moi, vous mettez une nappe sur une table qui a des carreaux et ils essayent de tout mettre en alignement. Vous savez, moi, je vais mettre la table, mais lui, il va repasser derrière moi, puis il va tout remettre en alignement. Il va remettre le verre, il va remettre l'assiette, le couteau, tout ça, tout est bien aligné. Et ça, ils nous apprennent en formation. Quand on m'a appris la maladie, je me suis dit, oh là là, ça va être dur, parce que bon, on entend quand même dans les personnes qui parlent que les aidants, bien souvent les aidants partent avant les malades. Parce que c'est usant au bout d'un moment. Hein. C'est fatigant. Je veux dire, l'esprit, vous n'avez pas l'esprit libre. Vous êtes tout le temps en train de penser à quelque chose. Parce que moi, si par exemple, je ne décongèle pas du pain, c'est pas lui qui va y penser, vous voyez. Je pense pour lui. Et il faut avoir du courage pour faire cette démarche, mais il faut la faire. Parce qu'on ne peut pas rester seul avec une personne qui est malade. Parce qu'au bout d'un moment, moi, pendant 2 ans, j'ai pris des antidépresseurs. Et du jour au lendemain, j'ai dit à mon docteur, il faut que j'arrête. Elle m'a dit, moi, je veux bien. Vous allez aller progressivement parce que je lui ai dit, moi, il faut que j'ai la tête lucide. Et il faut que j'aide mon mari, parce que si je ne suis plus là, qu'est-ce qu'il va faire, hein? Il faut être forte et tout ça. Et je ne croyais pas avoir la force de faire tout ce que j'ai fait, parce que j'ai mis en place beaucoup de choses, parce qu'il faut s'en occuper, il faut qu'il ne pense pas. J'ai mis la musicothérapie, je fais de la sophrologie, de la gymnastique, on va au café des aidants, on va au bistrot musical pour qu'il ne pense pas à sa maladie, qu'il essaye de... Je fais comme s'il était comme avant.
Un bel exemple de dévouement qui se passe de commentaires et avec lequel, d'ailleurs, nous allons conclure ce podcast. Je vous retrouverai la semaine prochaine sur Pourquoi Docteur pour un nouveau rendez-vous sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire. Merci de votre fidélité. À bientôt.